Nous allons commencer cette nouvelle soirée littéraire avec toujours en guest star Lia Arthur. Bah, Lia, je vais te donner la parole tout de suite.
Mais il était temps. Donc je vais vous parler de ce livre aujourd'hui d'Alejandro Jodorowsky, La danse de la réalité. Alors, c'est un livre qui fait plus de 400 pages, donc je m'excuse par avance si j'ai dû raboter, je ne vais pas pouvoir rendre compte de cette trouvaille littéraire et philosophique et psychomagique. J'espère que je ne serai pas trop longue parce que j'ai vraiment essayé de faire au mieux. Donc n'hésitez pas à m'arrêter ou à me dire d'accélérer si vous en avez marre. Donc Alejandro Jodorowsky, donc on peut dire que c'est un artiste un petit peu total, en tout cas très complet, un autodidacte. Donc il a fait de sa vie en soi une œuvre d'art. Donc il est né, vite fait quelques éléments biographiques, parce que je précise que ce livre est une autobiographie en fait. C'est une autobiographie mais dans laquelle il va raconter vraiment tout son cheminement et son processus, notamment vers ce qu'il appelle la psychomagie. C'est ça qui m'intéresse surtout ce soir, c'est tout le glissement de son art et de sa vie et tous les éléments qui l'ont conduit vers ce qu'il appelle la psychomagie. Donc il est né en 1929, il est toujours vivant, il doit avoir 96 ou 97 ans, je crois. Au Chili, de parents juifs ukrainiens. Et il grandit dans un environnement familial particulièrement dur. Hein. Toutes les premières pages sont consacrées à son enfance, à sa relation avec son père qui avait une mentalité stalinienne, très autoritaire, très dure. Son père, c'était un communiste athée qui méprisait toute forme de faiblesse et qui méprisait aussi les arts et les artistes. Et qui a vraiment terrorisé son fils durant des années, notamment lui faisant subir, on va dire, toutes sortes d'épreuves qu'on peut qualifier de maltraitantes destinées à développer sa résistance, notamment à la douleur. Donc sa mère, Sarah, elle est décrite comme plus douce, mais passive et assez soumise à l'autorité de ce père. Et donc à ses yeux, en fait, elle n'a pas pu lui donner l'amour maternel réparateur en fait, dont il avait besoin, et elle s'est faite pour lui complice de ce père. Et donc il a eu aussi une sœur, Raquel, dont il est assez jaloux, secrètement. Parce qu'elle catalyse toute l'attention du père, en fait. Là, pour le coup, on a un gros syndrome oedipien inversé. lui a beaucoup trop de mal à trouver sa place dans cette famille. Et donc face à ce trio infernal, il ne voit pas comment exister. Et il se décrit lui-même dans son livre comme un mutant incompréhensible et invisible, séparé du reste de la famille par un goût d'incompréhension, une chenille stérile qui agonise dans la solitude. Donc voilà, et à cela, comme il était juif, il y avait quand même, beaucoup moins qu'en Europe évidemment, mais il y a quand même de l'antisémitisme au Chili. Et il essuie aussi, par ailleurs, des moqueries de ses camarades, liées à ses origines, notamment son nez un petit peu aquilin et sa circoncision. Donc pour survivre dans cette réalité très aride qu'a été son enfance et tromper la solitude, il commence très tôt en fait à développer son imaginaire, qu'il commence à peupler d'êtres qui sont pas, on va dire, c'est des amis imaginaires, mais peut-être pas au sens classique. On va dire que c'est plus des extensions psychologiques ou mythologiques de sa propre identité, comme le vieil Alexandro ou le Rébé. C'est un personnage intérieur qui revient comme ça et qui va finalement le bombarder d'intuitions et lui ouvrir d'autres dimensions de son être. Alors il raconte dans des très beaux passages toutes ses méditations. Il prend vraiment le temps de raconter ce qu'il fait, ses voyages intérieurs. Même si à l'époque, en fait, c'était comme il était très jeune, il avait 7-8 ans, je sais pas quel âge, à peu près, je crois, ça venait pas sous forme de mots ou de poèmes ou autre, mais plus sous forme de sensations et d'intuitions qu'il a traduit plus tard. Mais bon, c'est comme si ces êtres qui étaient en lui lui paraissaient presque un petit peu visionnaires, comme s'ils avaient la faculté en fait de voir tout son potentiel d'être et son épanouissement futur. Alors j'avais juste une brève citation sur comment lui il a traduit après un petit peu ses... Alors, donc dans un dialogue intérieur, donc c'est le rêve, je crois qu'il lui dit ça. Tu n'es pas seul. Te souviens-tu, la semaine dernière, quand tu as eu la surprise de voir pousser un tournesol dans la cour, tu en as conclu que c'était le vent qui avait transporté une graine. Une graine, insignifiante en apparence, contenait la future fleur. Cette graine savait, d'une manière ou d'une autre, quelle plante elle serait. Et cette plante ne se trouvait pas dans le futur. Bien qu'immatérielle, juste à l'état de projet, le tournesol existait déjà, flottant dans le vent sur des centaines de kilomètres. Et non seulement la plante existait, mais aussi l'adoration de la lumière, les girations à la recherche du soleil, la mystérieuse union avec l'étoile polaire et, pourquoi pas, une forme de conscience. Tu n'es pas différent. Tu es déjà tout ce que tu seras. Tu sais déjà tout ce que tu sauras. Ce que tu chercheras te cherche déjà. Cela est en toi. Peut-être n'est-il pas vrai. Mais le vieillard que tu vas voir maintenant, bien qu'il ait mon inconsistance, est réel parce qu'il est toi. C'est le vieil Alejandro, je pense. C'est-à-dire qu'il est ce que tu seras. Tout cela, je ne l'ai ni pensé ni entendu, je l'ai senti. Et devant moi, à côté du lit, mon imagination permit qu'apparut un vieux monsieur à la barbe et aux cheveux argentés, les yeux remplis de douceur. C'est moi-même changé en mon frère aîné, en mon père, en mon grand-père, en mon maître. Voilà. Donc voilà, son enfance à Torpilla devient vraiment un laboratoire métaphysique où il va s'adonner vraiment à ses méditations, ses explorations méditatives. Et par l'imaginaire qui était pour lui à la fois un instrument de fuite, mais aussi une possibilité de dépassement d'une condition qui était trop dure à ce moment-là, il effectue ses premiers voyages oniriques et il va vraiment se projeter en esprit de plus en plus loin, presque dans un au-delà de presque ce qui pourrait ressembler à ce qu'on pourrait appeler un voyage astral. Enfin, vous savez, penser à vraiment en essayant de dépasser les limites de son corps, à se connecter aux astres, aux étoiles, à l'univers, voilà, jusqu'à vouloir presque épouser l'infini du cosmos, et puis il va revisiter certaines figures, certains éléments de sa vie, etc. Cependant, je dois préciser que même si ses méditations lui ont procuré beaucoup de réconfort et de bien sur le moment, il en constate aussi très vite les limites, c'est-à-dire que après, ça ne changeait pas fondamentalement la réalité ni de ce qu'il vivait, ni de ce qu'il se sentait être. Et comme il n'aime pas son corps, alors il dit « Bon, c'est parce que ça ne passe pas par mon corps. » Donc, comme il sent qu'il doit passer par le corps et que lui-même n'aime pas son corps, il pratique ce qu'on pourrait appeler une auto-hypnose sensorielle, en fait, pour changer les perceptions qu'il a de son corps et essayer de se procurer un corps idéal. Mais là, encore une fois... il est obligé d'admettre que cet effort de transformation imaginaire de son corps a échoué et qu'en fait il était, sa prise de conscience c'est qu'il est attaché à son corps de manière cellulaire en fait, complètement insécable, et que cet attachement organique, en fait il devait simplement l'accepter comme étant la sienne. Donc en fait ça l'a renvoyé encore plus fort dans une incarnation. Voilà. Donc ce qu'il voit très vite, c'est que la pensée abstraite, elle peut pas suffire à transformer pour lui les choses en profondeur sans passer notamment par l'acte et l'expérience. Mais quand même, tout ça lui permet de découvrir, alors il en parle aussi très bien, que la réalité est une construction très fragile pour lui, qui est vraiment maintenue par une forme de... on pourrait presque dire d'illusion de l'esprit, qui est tenace, mais qui est aussi très modulable. Donc c'est vraiment, ces voyages lui permettent vraiment de sentir à quel point la réalité peut être malléable et un petit peu prendre différentes formes. Donc, citation. Alors. « Après des méditations qui me parurent éternelles, je fus incapable de dissoudre mon intellect dans mon corps. Sortir de ma tête s'avéra aussi impossible que d'échapper de l'intérieur d'un coffre-fort. Impossible de céder à la chair la suprématie de mon identité. Je décidai alors de suivre le chemin inverse. Puisque je ne pouvais descendre, je ferai que toutes mes sensations s'élèvent. Par pur intellect, je commençai à absorber ma forme physique, puis incorporer les besoins, les désirs, les émotions. J'examinai ce qu'était ce que je ressentais, puis comment je vivais avec cette sensation. Je compris que ce qu'on appelle la réalité était une construction mentale. Parfaite illusion, impossible de le savoir. Mais de toute évidence, ce qu'il y avait de réel en moi, jamais je ne le percevais dans sa totalité. Toujours l'intellect me fournissait un fantôme incomplet, déformé par la fausse conscience de moi-même, celle que m'avait inculquée ma famille. Je vis mal, à l'intérieur d'un fou. Ma barque rationnelle navigue dans la démence. Ce qui au début me parut un cauchemar se convertit peu à peu en espoir. Étant donné que tout ce qui se présentait comme mon être, c'était des images illusoires, pas différentes de celles d'un rêve, il m'était possible de changer la sensation que j'avais de moi-même. Ça va ? Donc, je fais ici une petite précision historique. On est dans une période de Seconde Guerre mondiale. Donc, le Chili, pour lui, c'est une sorte de bout de terre qui est très épargné et qui, en fait, va regarder un petit peu ce qui se passe en Europe, mais comme un spectateur de cinéma, quoi. Donc, voilà, ils ont été apparemment très peu touchés, ce qui a permis, en fait, à ce pays de développer beaucoup de mouvements artistiques. Donc, il y avait vraiment une floraison artistique à ce moment-là, et notamment poétique dans tout le pays. Et notamment, il était gouverné par un mouvement qui s'appelle la Mandragora, alors qui tient son nom, tenez-vous bien, d'une plante aux racines anthropomorphes liées à la magie et aux cris mortels, évidemment. Fondée en 1938, donc c'est ce qu'on appelle le surréalisme noir, en fait, du Chili. Donc ce mouvement, évidemment, un peu comme le surréalisme français, mais encore plus extrême, donc part d'un sentiment de révolte totale hein, contre la poésie bourgeoise et académique chilienne. Et évidemment, il est en étroite communication avec le surréalisme français d'André Breton, qui à l'époque connaît un essor incroyable. Donc il pratique une forme d'automatisme psychique, souvent très provocateur, voire agressif, quoi. Donc Jodorowsky rejoint ce groupe dans les années 40, ce qui lui apprend vraiment à défier le raisonnable. Pour lui, si une action semble absurde, mais qu'elle va vibrer poétiquement, quelque part elle est plus réelle que la réalité. Voilà. Donc la Mandragora. Alors, un point très important chez Jodorowsky, qui c'est vraiment le fil rouge en fait de tout son livre, c'est que la poésie mais aussi le soin et donc une forme de guérison doit passer par l'acte. Et la première fois que il a eu ce sentiment là qu'il a découvert que la poésie était un acte, c'est quand il se trouvait chez lui voilà, il y avait un tableau en fait affiché derrière sa mère, un tableau de paysage qu'il trouvait un petit peu hideux et insipide. Et en fait, donc il y a eu une dispute à ce moment-là entre son père et sa mère, et son père a voulu lancer des œufs sur sa mère, qui les a esquivés, et les œufs se sont écrasés sur le tableau. Et à partir de là, il a commencé à trouver le paysage absolument magnifique. Voilà, les œufs ont littéralement illuminé le tableau, lui ont donné une autre dimension. Et là, il a compris vraiment cette phrase de « la poésie est un acte ». Voilà. Le premier acte vraiment qui marqua le début de sa vie poétique, on va dire, poétique surréaliste et rebelle, c'est l'abattage à coups de hache du tilleul de sa grand-mère lors d'une réunion familiale, alors qu'il était, je pense, je sais pas quel âge il avait, mais je pense dans la fin de son adolescence peut-être, je dirais. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais voilà. Donc tout à coup, voilà, non, on n'en pouvait plus. Voilà, c'est évidemment, c'était un acte de... on va dire, de terrorisme poétique, un acte suprême de rébellion, c'est-à-dire métaphoriquement, il a abattu sa famille à ce moment-là.
Parce que c'est lui qui a coupé l'arbre.
Ouais, à coup de hache, tout à fait. Et cet arbre, c'était vraiment le cœur battant du jardin de sa grand-mère. Ouais. Là, c'était vraiment. Il était très très important dans sa famille. Évidemment, bah, symboliquement, il représentait tout l'ordre établi, hein, familial, etc. Donc, après, plus tard, il dira que pour lui, évidemment, que, après, avec le recul, c'était un crime, hein, d'abattre cet arbre, c'est un crime contre le vivant, mais qu'à l'époque, il était très déconnecté de cette interreliance et que ça a été un acte puissant, libérateur.
Comment il a justifié cet acte ?
Et bien, comme l'abattage symbolique de sa famille.
Ah oui, d'accord, donc il est voulu, c'est vraiment c'est un
oui.
contre sa famille. Quoi.
Oui, je ne sais pas à quel point. Voilà. C'était conscient au moment où il l'a fait, mais en tout cas c'est comme ça que lui il l'analyse. En fait, je pense qu'il y a, et c'est à partir de ce moment-là que lui il est identifié comme le premier jour de sa vie. Qu'est-ce qu'il a
ça concerne
j'ai
pas
craqué
pas.
Donc
ah pour le micro, mais c'est pas grave.
C'est un acte poétique.
<Mais craqué. rire> Donc voilà, en tout cas lui il identifie clairement ce jour comme le premier jour de sa vie. Et de là, après, il va connaître une montée en puissance de la fureur poétique. Alors, une force très anticonformiste qui va le pousser à faire des choses, on va dire, à des gestes un peu incompréhensibles pour le monde extérieur. Mais dans le but, hein, comme bien sûr, chez, dans l'esprit surréaliste, est destiné à bouleverser l'ordre des choses. Donc, on va dire que sa première, ce qu'il appelle thérapie initiatique, a eu lieu lorsqu'il a rencontré Véronica, qui est une sorte d'artiste qui lui a appris en fait à confectionner des marionnettes. Alors je ne sais pas si vous savez, mais les marionnettes ont été très très importantes dans toute l'œuvre de Jodorowsky. Il a été marionnettiste, hein, il a imposé même, on peut dire, un théâtre de marionnettes au Chili, etc. Et donc il a vraiment appris comme ça, un peu dans l'ombre, il n'avait pas d'atelier ni rien, donc auprès de Véronica, qui lui a appris à confectionner ses marionnettes. Et la première fois, donc, il a animé ses marionnettes. En fait, il a fait des marionnettes sous les traits de son père, donc notamment son père et sa mère. Et il les a animées, évidemment, dans un but de les caricaturer et d'exorciser, en fait, la violence, les injustices subies, etc. Mais, bizarrement, contre toute attente, il découvre que les marionnettes, peu à peu, au fur et à mesure qu'il les anime, c'est comme si elles se dotaient d'une volonté propre, qu'elles devenaient presque autonomes, se détachait presque de sa volonté à lui, et tout à coup elle commençait à lui demander des comptes à lui aussi. Donc on commençait à lui demander à lui de pardon, quoi, de leur demander pardon pour avoir déçu tous leurs espoirs, etc. Voilà, donc il y a une espèce de retournement de conscience comme ça, très étonnant. Voilà, donc alors il faut dire que pour Jodorowsky, nous sommes souvent des poupées, on va dire mécaniques, répétant les traumatismes de notre lignée, hein, de manière inconsciente évidemment. Et la marionnette, pour lui, représente vraiment cet état de non-conscience de l'individu, qui n'est pas maître de lui à ce moment-là, et qui va évidemment transférer sur un objet toutes ces représentations qu'il a de l'autre. Mais ces représentations même finissent par dépasser l'individu et s'inscrire plus profondément dans tout l'inconscient familial qu'il porte aussi en lui, et auquel elles sont liées. Et donc, ce qui est intéressant, comme il le décrit, c'est que ce qu'il appelle la magie à ce moment-là, qui a commencé à opérer, c'est qu'il a constaté qu'à partir du moment où ses propres représentations à lui ont commencé à bouger avec ce jeu de marionnettes, toute la structure relationnelle de la famille a commencé à bouger à partir de ce moment-là. Je sais pas, est-ce que vous voulez que je vous en lise un petit passage ou... Ouais.
Oui.
Ça vous dit. Alors.
Est-ce qu'on pouvait atteindre les graines ?
Voilà.
Merci.
Donc. Je puis ainsi faire parler le sieur Jamie, donc son père, et Dame Sarah, et tous les autres. Mes amis, voyant ces représentations grotesques, riaient à gorge déployée. Toutefois, à mesure que mes mains se fondaient avec les personnages, ils commencèrent à exister avec une vie propre. Dès que je leur prêtais ma voix, ils disaient des choses que je n'avais jamais pensées. Essentiellement, ils se justifiaient, considérant mes critiques injustes. Ils insistaient sur le fait qu'ils m'aimaient et, à la fin, se plaignaient en exigeant que moi-même, pour les avoir déçus, je leur demande pardon. Je me rends compte de ce que mes plaintes étaient égoïstes. Je me lamentais parce que je ne voulais pas pardonner, c'est-à-dire que je ne voulais pas mûrir, être adulte. Et le chemin du pardon exigeait de reconnaître que, à sa manière, toute la famille, parents, oncles, tantes, grands-parents, étaient victimes. J'avais trompé leurs espoirs, espoirs pour moi-même certes négatifs, absurdes, mais pour eux, à leur niveau de conscience, légitimes. Je leur demandais sincèrement pardon. Pardonne-moi, Jenny, de ne pas t'avoir donné l'occasion de vaincre tes complexes sociaux en suivant une carrière universitaire. Que j'obtienne un diplôme de médecin ou d'architecte était la seule chance que tu avais d'être respectée par la communauté, etc. Voilà, je saute un petit peu. Donc voilà, et étrangement, peut-être par la magie des peut-être la magie des marionnettes fonctionnait-elle, lorsque je décidais de renouer les liens, l'attitude de mes parents à mon égard devient plus compréhensive et plus affectueuse. Ma grand-mère aussi, sans revenir sur l'incident de l'arbre, m'invitant à prendre le thé avec elle et pour la première fois me fit un cadeau, un bracelet montre qui à la place des aiguilles avait un éléphant indiquant les minutes avec sa trompe et les heures avec sa queue. Miracle. Je me l'explique de la manière suivante. L'image que nous avons de l'autre n'est pas l'autre, mais une représentation. Le monde que nous impose les sens dépend de notre façon de les voir. Pour nous, d'une certaine manière, l'autre est ce que nous pensons qu'il est. Par exemple, quand je fis la marionnette de Jenny, je la modelais de la manière dont je le voyais. Je lui donnais une existence limitée. En l'animant dans le petit théâtre, d'autres aspects que je n'avais pas saisis se glissèrent, venant de mon obscure mémoire, et transformèrent son image. Le personnage, enrichi par ma créativité, évolua jusqu'à atteindre un degré supérieur de conscience. De féroce et obséquieux, il devint aimable, plein d'amour. Peut-être mon inconscient individuel était-il étroitement lié à l'inconscient familial. Si ma réalité changeait, celle de mes parents changeait aussi. D'une certaine façon, en faisant le portrait d'un être s'établit un lien entre lui et l'objet qui le symbolise. De telle manière que si des changements se produisent dans l'objet, l'être qui a donné naissance à ce qu'il représente change également.
Quand est-ce qu'il écrit ça ?
Je crois que ça date de 2013. Ce livre,
ah oui, c'est...
je crois,
ah,
c'est celui que c'était 2013. Il me semble. Ouais. Je crois que j'avais lu 2013. Voilà. Donc, ça va pour tout le monde ?
Oui, oui.
C'est pas trop long ou trop... Non, ça va. Donc, l'usage des marionnettes. Donc, c'est pour lui un usage en fait thérapeutique puissant qui permet premièrement une externalisation. C'est-à-dire qu'en projetant un parent tyrannique ou une part de soi blessée sur une marionnette, on va déjà séparer le problème de l'individu. Donc la personne, elle peut transférer une partie de son énergie interne sur l'objet, mais le problème n'est plus en lui, mais devant lui, tout à coup. Le dialogue, donc parler à la marionnette ou la faire parler permet de briser les non-dits, parfois très profonds. Donc comme la marionnette est un objet, en fait, la barrière de la peur ou de la culpabilité n'existe plus. Et l'acte libérateur, alors ce qu'il proposera après dans certains actes plus tard dans sa vie, là il n'en était pas encore là, mais dans certains rituels, la marionnette, elle peut être symboliquement enterrée, brûlée, etc. C'est un des principes sur lequel repose l'acte psychomagique, c'est-à-dire que le cerveau ne fait pas la différence entre un symbole et la réalité. Et donc l'inconscient enregistre que le problème est détruit. Et elle peut au contraire d'ailleurs être soignée, habillée royalement, on peut lui ajouter des fleurs, des ornements, la peindre en blanc, etc. On transmute toute l'énergie de cette énergie basse, on va dire, en une force alliée en ce moment-là. Alors, donc, je continue le petit périple. Ça va pour tout le monde ? Ouais. Donc, une autre figure très marquante. Alors, franchement, non, mais il y a des passages juste incroyables là-dessus. Donc, c'est celle de sa... Donc, c'est une rencontre, on va dire, plutôt amoureuse avec la poétesse Stella Diaz-Varin. Varin, j'espère que je prononce bien. Donc, il l'a rencontrée dans un bar de la ville et donc elle deviendra en quelque sorte son amante. En fait, elle se réservait pour un autre que lui, donc elle lui interdisait. Bon, bref, d'aller jusqu'au bout, mais ils ont quand même, voilà, là j'entends des détails qui n'ont aucun intérêt. Donc il cherchait en fait à ce moment-là ce que lui il appelle une muse vipère, en hommage à l'antipoème de Para, qui était un poème, un poète assez en vogue à l'époque au Chili. Il y avait Neruda et Para. Alors Neruda, lui, il était en pleine efflorescence, voilà, très très connu. Para, c'est un petit peu l'antipoète, qui a écrit un poème donc, qui s'appelle un antipoème.
Pourquoi
la,
tu dis
la vipère.
Antipoète?
Parce que c'est pas du tout c'est un poème d'amour à l'envers, quoi. C'est un poème d'amour sur une femme toxique. Voilà. Donc il l'a écrit là. Enfin, je l'ai pas recopié, mais donc ce qu'on appelle un antipoème, antipoème romantique, quoi. C'est le...
ah, oui.
Voilà. Ouais. Et donc il. Alors elle, c'est une femme complètement anticonformiste, libre, reine du chaos et de la nuit. Alors je vous passe tous les passages parce que c'est.
Il s'appelle Yaras.
Stella Diaz Varine.
Non mais lui
le Para. Le Para. Ah,
d'accord.
Ouais, c'est ça.
C'est pas le poète qui a été assassiné, etc. Au moment des événements au Chili.
Ouais, hein,
oui.
Non, pas Pablo Neruda, pas en même temps, je crois pas. Enfin, je connais pas tout
faut
précisément,
regarder,
mais Para, c'était un poète qui a été assassiné.
Ouais,
oui. Je sais pas si on va pas couper les mains ou un truc.
Mais c'est intéressant de savoir s'il a été assassiné.
Parce qu'il était guitariste.
Assassiné.
Ah, c'est ça.
Il était guitariste,
on lui a coupé les mains, c'est ça.
Les doigts.
Enfin, il s'appelait Para, alors je sais pas, il y en a peut-être plusieurs, je sais pas, mais si c'est un poète.
Je pense que c'est peut-être lui, il faudra vérifier.
Mais
sa fin tragique m'a dit quelque chose en fait.
Oui, oui.
Il faudra vérifier, mais c'est très possible. Et donc cette femme donc, lui a vraiment permis pour lui de passer de l'acte conceptuel, c'est-à-dire la création au moyen de mots, d'images, parce qu'évidemment, je ne vous ai pas tout dit, mais il écrivait des petits poèmes qu'il brûlait au fur et à mesure, de peur que son père tombe dessus, dans sa chambre. Donc à l'acte poétique, c'est-à-dire poème résultant d'une somme de tâches corporelles. Donc pour Stella, on incite vraiment dans ce personnage, c'est que la réalité, c'était vraiment une sorte de pâte, voilà, coupée, modelée. Vraiment une pâte à modeler, quoi. Par nos actes et notre perception, ce qui est un des socles, évidemment, de sa philosophie à lui, en fait, c'est que la réalité n'est évidemment pas régie par des lois immuables, c'est une substance très très plastique qui va être soumise à notre niveau de conscience. C'est-à-dire qu'il dépend de notre grille de lecture du monde, de notre interprétation, de nos croyances, des peurs, des désirs qu'on y projette, etc. Il dira même à un moment, nous ne souffrons pas de la réalité elle-même, mais des limites de notre imagination. Donc la réalité pour lui, pour cette poétesse aussi, hein, c'était un fleuve en crue. Donc pour lui, on ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Et en gros, si l'esprit est enfermé dans une chambre noire, et notre réalité sera une cellule capitonnée. Si l'esprit est un courant d'énergie avec lequel on peut naviguer, la réalité deviendra une sorte d'arrière-monde poétique, un théâtre de miracles. Et donc la première fois qu'il assiste, alors j'ai deux anecdotes sur la rencontre avec cette femme, c'est qu'il assiste à une de ses lectures de poèmes dans un bar miteux, délabré, qui vont tout à coup transformer radicalement la perception de son environnement. Donc là, je cite, « Entendre cette authentique poétesse libérée de la rime, de la métrique, de la morale, fut l'un des moments les plus émouvants de ma jeunesse. L'endroit était sale, laid, éclairé par des lampes cruelles, et les clients bestiaux, sordides. Cependant, devant ces mots sublimes, il se transforma en un palais habité par des anges. » J'eus là la preuve que la poésie était un miracle qui pouvait changer la vision du monde. Et en changeant la vision, elle changeait aussi l'objet perçu. La révolution poétique me parut plus importante que la révolution politique. Ça, c'est la première anecdote dans ce renversement vraiment qu'il a eu avec cette femme, qui l'a entraîné très loin dans la débauche et le vin. Hein, faut dire, c'est vraiment, ils vivaient que la nuit, ils étaient... Bon voilà, et une deuxième anecdote, parce que Jodorowsky était très attaché aux petites, on va dire, ce qu'il appelle la magie, les miracles, les petites synchronicités étranges de la vie. Et donc à un moment donné, au début de leur rencontre, il lui a donné un rendez-vous toujours dans un bar. Et elle est arrivée très en retard au bras d'un homme. Et donc lui, il est devenu très furieux. Et il a jeté une marionnette, il avait fait la marionnette de Para, justement, du poète. Et il l'a donc jeté sur la table et il s'est mis à presque insulter le couple en disant, voilà, qu'elle devrait avoir honte de sortir avec un homme comme ça, de le choisir comme amant. Et il jette sa marionnette et il dit que Para soit ton maître. Cet homme était Para. C'était Para. Et donc il s'est présenté à elle, à lui. Et bon, ils n'étaient pas, en plus, ils n'étaient pas du tout dans une relation d'amant. Et voilà, et ça a été sa première rencontre avec Para. Voilà, complètement folle. J'ai lu trois fois le passage en me disant. Et non seulement c'était Para, mais la vipère, c'était cette femme. La vipère de son poème, c'est-à-dire à qui était adressé son poème, était cette femme.
D'accord.
Donc c'est complètement dingue, quoi.
Ils sont rabibochés après, ils sont.
Oui, avec Stella ou avec Para.
Avec Para.
Oui, parce que lui, il était très, très tranquille. Hein, je crois qu'il a bien pris l'événement, lui. Voilà. Oui, parce qu'ils se sont revus après. Hein. Mais des années plus tard, je crois. Mais ils ont eu des liens ensemble.
Mais sans Stella.
Non, elle avait disparu.
Oui.
Donc c'est vrai que ça m'a un peu scotché. Voilà. Donc ensuite, attention, on va attaquer là plus dans le sérieux. Est-ce que ça va, pour tout le monde, hein?
Non.
Jean, c'est toi le maître du. La...
Ouais.
Ah
non, c'est
ça,
pas,
ça va? Non, j'ai un peu peur de
demander l'aide.
Très bien.
Et juste, tu nous caches un peu, je disais à ma voisine.
Je vous cache.
Les enfants ici, alors que tu nous caches des choses.
Je vous cache des choses. Honnêtement, très honnêtement, effectivement, il y a des passages assez crus et. Pas scabreux, cru à la limite du pornographique.
Et
vraiment, je vous les ai épargnés tous. Enfin, je pense.
Tu nous épargnes.
Je vous ai épargné parce que j'estimais qu'on ne va pas oublier. Tout à fait. Parce qu'on ne sait pas qui va écouter en ligne. J'ai voulu épargner votre sensibilité.
Après, c'est diffusé,
voilà. C'est diffusé,
oui, voilà.
Etc. Je ne veux point être accusé de. Voilà. Donc. Donc là, une des rencontres très majeures de sa vie, c'est avec le jeune poète. Enrique Lin à Santiago du Chili. Donc ils vont former tous les deux, mais alors un duo tonitruant qui vont donc c'est ses premiers actes poétiques concrets en fait de surréaliste dans la ville où ils étaient. Donc ces expérimentations insolites elles sont à l'origine pour lui de ce qu'il appellera plus tard la psychomagie. Donc ils ont inventé ce qu'ils appellent les éphémères paniques ou les actes poétiques. Donc les éphémères paniques, vous verrez, c'est un espèce d'acte complètement anticonformiste, en fait destiné à créer l'irruption de l'insolite dans la réalité, dans le quotidien, et à mettre un peu presque en sidération, en choc les esprits pour quelque part les réveiller. Voilà, enfin, c'était un peu le but. Et les éphémères paniques, évidemment, c'était ni enregistré ni rien, c'était destiné à vivre uniquement dans le présent de l'ici et maintenant. Donc ils ont inventé ça bien avant que le terme de performance n'existe. Donc d'abord, je vais quand même vous lire ce passage parce que ils ont commencé d'abord à réfléchir sur le langage et à essayer de le redéfinir parce qu'ils le trouvaient souvent très grotesque et mal employé. Alors je vais vous donner un petit exemple. Donc, voilà. Nous commençâmes par constater que nous étions d'accord sur le fait que le langage qu'on nous avait enseigné transportait des idées folles. Au lieu de penser correctement, nous pensions de façon tordue. Il fallait donner aux concepts leur sens véritable. Nous passâmes un bon moment à cela. Je me souviens de quelques exemples. Au lieu de jamais, très rarement. Au lieu de toujours, souvent. Infini, étendue, inconnue. Éternité, fin impensable. Échoué, changer d'activité. Il m'a déçu, je l'imaginais de façon erronée. Je sais, je crois. Beau, laid, il me plaît, il ne me plaît pas. Tu es comme ça, je te perçois comme ça. Le mien, ce que je possède maintenant. Mourir, changer de forme. Ouais, je continue juste un tout petit peu. Mourir, changer de forme. Voilà. Puis nous passâmes en revue les définitions et arrivâmes à la conclusion qu'il était absurde de définir en affirmant. En revanche, il était juste de définir en niant. Par exemple, bonheur, être chaque jour moins angoissé. Générosité, être moins égoïste. Courage, être moins lâche. Force, être moins faible, etc. Nous en vîmes à la conclusion qu'à cause de ce langage tordu, la société tout entière vivait dans un monde infesté de situations grotesques. Grotesque, hormis la définition dans le dictionnaire, donc ridicule, extravagant ou grossier, serait aussi une non-communication inconsciente. Le pape, par exemple, croyait être en communication directe avec un dieu en réalité aveugle, sourd et muet. Un citoyen, alors qu'il était battu par les gendarmes, pensait que l'État le protégeait. Voilà 20 ans qu'ils étaient mariés et parlaient, sans s'en rendre compte, lui un langage, elle un autre. Les pires situations grotesques, se croire connu, croire tout savoir sur un thème, penser avoir jugé avec une impartialité totale, dans une conversation, une personne pensait une chose et essayait de le communiquer en disant une autre. Son interlocuteur entendait une chose, mais en comprenait une autre. En répondant, il ne répondait pas à ce que l'autre avait d'abord pensé, ni même à ce qu'il avait dit, mais à ce qu'il avait compris. Total, une conversation de sourds qui ne savaient même pas s'écouter eux-mêmes. Comme la solution à la communication grotesque, je proposais l'acte poétique. Suivit une discussion acharnée qui prit fin avec les premiers rayons du soleil. Il y avait deux formes de poésie, l'écrite qui devait être secrète, une sorte de journal intime qui n'avait besoin que d'un minimum de lecteurs, créé au seul bénéfice du poète, et la poésie d'acte, qui devait être réalisée comme un exorcisme social devant un grand nombre de spectateurs. Voilà. Ça va pour tout le monde ? C'est cool cette transformation du langage. Enfin, moi, j'ai adoré ce passage. Et donc, alors les deux, là, Emmerich Ehlin et Jorodowski. Voilà, c'est ça. Donc, ils vont commencer une série très impressionnante d'actes poétiques surréalistes. Donc, par exemple, on en connaît d'autres qui ont suivi ces traces. Ils ont décidé de traverser la ville de Santiago en marchant strictement en ligne droite, sans dévier de leur trajectoire. C'est-à-dire que si un mur se dressait devant eux, ils l'escaladaient. S'il y avait une voiture, ils montaient sur le toit. S'il y avait une maison, ils frappaient aux portes et demandaient aux gens de les laisser passer pour traverser leur salon. D'ailleurs, il dit à ce propos que comme le Chili était à une époque où la poésie fleurissait de partout, quand il disait aux gens que c'était des jeunes poètes en action, ils étaient très bien reçus. En général, il y avait très peu d'hostilité.
Je pense qu'aujourd'hui, ce serait...
Aujourd'hui, c'est terminé...
À part... Mais en général, on était mal accueillis. On était souriant et puis, on cassait pas tout l'intérieur, mais voilà, c'est après on rentrait pas tous d'abord à la maison, enfin, un qui rentrait puis qui faisait le chemin, enfin qui mais on passait très très peu de temps à la maison puis on déviait un petit peu la ligne droite, quoi, mais des fois on passait pièce en pièce, mais on passait par un bout de la maison puis on ressortait par un autre bout de la maison. On sortait par la cave, comme c'était en ligne droite, c'est pas grave, c'était un. Cela, puis on retournait en ligne droite après, mais c'était marrant, c'était pour le fait de traverser des habitations, puis des lieux qui étaient. Et puis une ligne droite, cette petite truc en pointillé, en biscornu et tout, bah, quand tu prends de la hauteur, bah, ça fait une ligne droite à la fin sur le plan, et on avait traversé un quartier de Grenoble. Je connaissais pas la ville à l'époque, j'habitais Chambéry, mais c'était vers l'île verte. Enfin,
ouais, l'île verte, j'imagine.
Ouais, c'était.
Voilà, donc c'est. Ça va, Jean, tu t'imagines traverser. Donc on peut dire que ce défi, c'était vraiment comme, on peut l'interpréter comme une méditation active sur la volonté, sur une manière évidemment de vaincre des obstacles en les intégrant à l'œuvre d'art.
Merci.
Comme si eux-mêmes refusaient de se soumettre au labyrinthe imposé par l'urbanisme et la société. En gros, c'est une manière de dire aucun obstacle social ne me fera dévier de ma trajectoire. Et dans ce défi, juste à un moment donné, ils se sont fait poursuivre par une meute de chiens enragés, évidemment.
Ah oui, ça aussi.
Et toi aussi.
Mais on tombait sur des animaux pas toujours très, très accueillants, mais voilà.
Ah oui.
Et puis, mais je me rappelle, des fois, il y avait des, de tous les âges, et puis il y avait des cordistes. Donc, après, on se relayait. Voilà, on se relayait sur la ligne droite.
Ah oui.
On se relayait selon nos capacités. Parce que des fois, il fallait escalader les maisons, machin et tout. Et puis, voilà, parce qu'il. Voilà, c'était.
La Bastille était dans ton chemin, tu étais obligé de grimper les falaises.
Ah oui, non, c'était. On n'est pas passé par la Bastille, mais reste. C'est ça, on aurait eu des problèmes avec la mairie, mais. Mais non, on avait étudié le trajet pour avoir le moins de problèmes possible.
Ah oui, quand même.
Et donc, eux, en tout cas, quand ils se sont fait attaquer par cette meute de chiens, il y a à un moment donné, Henrik et Lynn qui s'est mis à se mettre à quatre pattes et à essayer d'aboyer encore plus fort que ces chiens, ce qui les a mis plus ou moins en fuite. Et du coup, Jorodowski a dit que c'était un moment important pour lui parce que ça, lui, il n'aurait pas pensé à faire ça. Et il a compris que, en fait, parfois, il valait mieux s'identifier au problème, le pénétrer pour le résoudre, en fait, plutôt que de le fuir. Donc, comme autre chose, alors, je peux pas. Henrik Elin a fait le chien, tu vois. Il est devenu quelque part le. Tu vois, par analogie et par. Voilà.
Donc, c'est mis face au chien.
Ouais, je peux plus fort que plus férocement que ça encore, mais.
À deux chiens contre le chien tout seul, il est parti.
Je sais pas combien il y en avait, mais.
Putain, il a dû t'arriver.
C'est un groupe de 10, on est 10 chiens, et puis le gars,
Et alors, je vais pas tout vous dire, enfin, je peux pas. Il décrit une série d'actes poétiques complètement dingues, parfois plus ou moins vaines et parfois exceptionnelles. Voilà. Mais notamment, bah, par exemple, alors j'en ai sélectionné quelques-uns pour montrer un petit peu le caractère absurde de l'argent. Ils ont transformé leur argent en crevettes cuites. Et en fait, ils les ont notamment mises dans la main des gens, et enfin pour payer, quoi, et notamment dans la main de contrôleurs de train. Et en fait, ils ont provoqué cet état de stupeur profonde. Les contrôleurs n'ont pas su comment réagir, ils les ont laissés voyager gratuitement, en fait. Oui. Et ce qu'il dit, c'est pas.
Je faire ça en France, hein, ça marcherait pas.
Franchement, moi, j'ai.
Alors là, chien à Grenoble.
Je viens de rentrer en Grenoble, je n'aurais pas pensé.
Franchement, moi, je vais me procurer des crevettes bientôt, hein. Je vous le dis tout de suite. Là, c'est sûr. C'est sûr. Et il dit, par nos actes poétiques, nous voulions rendre évidente la qualité imprévisible de la réalité. Alors, il y a aussi. Ils ont aussi fait des choses. Alors, par exemple, ils ont bombardé de viande hachée les assistants d'une réunion de l'Académie littéraire. Il dit pour nous la poésie était une convulsion, un tremblement de terre, elle devait dénoncer les apparences, démasquer les mensonges et remettre en question les conventions. Et alors il y a un très bel c'est une des plus belles, enfin pour moi c'était un des plus belles actes poétiques, c'est qu'ils ont trouvé un spécialiste dans l'élevage des larves de papillons. Des larves de papillons. Et en fait ils se sont introduits chez le poète Neruda qui était pas là, vous savez qu'il était parti. Et en fait, avec l'aide spécialiste, ils ont semé des larves de papillons partout dans la maison pour que ils ont calculé le temps qu'il allait mettre pour revenir, pour qu'au moment où ils reviennent, en fait, sa maison soit pleine de papillons.
Voilà.
Je sais pas s'il en a été heureux d'ailleurs, mais je pense que oui. Bah, après, ils sont pas restés pour voir le résultat. Hein. Ils sont partis. Ils étaient là. Ils étaient à la maison du maître, hein, tu vois. Donc voilà. Et j'ai trouvé ça très, 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 très beau. Voilà, après, ce qu'il dit, c'est qu'ils ont aussi commis pour lui des erreurs, des actes sacrilèges, comme notamment un massacre de fourmis, voilà, piétiné par la foule, parce qu'ils ont amené une foule sur une fourmilière, bref. Donc, les massacres de fourmis, donc voilà, il est devenu à ce moment-là un assassin de fourmis. Mais le pire qu'ils ont fait, qui je pense lui est vraiment resté comme une grave erreur, c'est qu'ils ont volé le bras d'un cadavre dans une salle d'anatomie.
Oula.
Et ils ont emmené le bras, ouais, l'idée c'était de mettre, faire serrer la main, ouais. D'animer ce bras et de le mettre en contact avec les gens, bref. Et du coup, c'est là où il est vraiment passé de l'excitation de la transgression à la conscience du sacrilège. Et il a compris que l'art, c'était pas un jeu, en tout cas c'était un jeu sérieux. Et que ces actes n'étaient pas qu'une plaisanterie macabre, en fait, c'est manipuler la mort, avait des conséquences. et qu'on sortait pas indemne d'un contact aussi direct avec un cadavre, par exemple, et que le corps vraiment exigeait le respect parce qu'il porte la trace et l'empreinte de l'esprit qu'il a habité.
Il a dû faire ça, c'était cet acte pour se rendre compte de ça.
Bah non, mais je pense que si tu veux, ils sont allés tellement loin dans le débordement. Oui. Moi, si tu veux, non, c'était vraiment un moment, le débordement de leurs limites. Tu vois, ils ont fait des choses incroyables. Mmh. Et à un moment donné, voler un bras, le bras d'un cadavre dans une truc d'anatomie, c'était, tu vois. Mais en fait, je pense que vivre l'expérience de ce qu'est de porter ce bras, de le toucher, d'avoir l'odeur du formol qu'il a poursuivi pendant je sais pas combien de temps. Après, ils l'ont jeté dans le fleuve, dans la rivière, enfin, dans le fleuve, enfin voilà. Et puis après, ce que ça a créé en lui en termes de choc de conscience.
Bah oui,
et donc, si tu veux, ça a été une leçon assez brutale mais magistrale et qui lui a permis de redéfinir ce qu'était un acte poétique. Mmh. Et là, c'est là où ça devient intéressant. Enfin, intéressant, tout est intéressant, mais je veux dire. Parce qu'il redéfinit avec beaucoup plus de finesse, c'est-à-dire l'acte poétique, c'est pas non plus du grand n'importe quoi, en fait. Ça doit pas l'être, en tout cas, pour lui. Donc, quelle est la définition d'un acte poétique ? Donc, c'est juste après cette anecdote. Il doit être beau, imprégné d'une qualité onirique, faire abstraction de toute justification, créer une autre réalité au cœur même de la réalité ordinaire. Il permet de transcender un autre plan, ouvre la porte d'une nouvelle dimension, atteint une valeur purificatrice. C'est pourquoi, lorsque nous nous proposions de réaliser un acte différent des actions ordinaires et codifiées, il était avant tout nécessaire d'en mesurer les conséquences. Ce devait être une brèche vitale dans l'ordre pétrifié qui perpétuait la société, non la manifestation compulsive d'une rébellion aveugle. Il était essentiel d'user de méfiance vis-à-vis des énergies négatives que pouvait libérer un geste insensé. Nous comprîmes pourquoi André Breton s'était tellement excusé après avoir déclaré, cédant à l'enthousiasme, que le véritable acte surréaliste consistait à sortir dans la rue en brandissant un revolver pour tuer n'importe quel inconnu. L'acte poétique, gratuit, devait permettre de manifester avec bonté et beauté les énergies créatrices normalement réprimées ou latentes en nous. L'acte irrationnel était une porte ouverte au vandalisme, à la violence. Quand la foule s'excite, quand les manifestations dégénèrent et que les gens incendient des voitures et brisent des vitres, on assiste aussi à une libération d'énergie réprimée. Mais cela ne mérite pas le nom d'acte poétique. Un haïku japonais nous éclaira. L'élève montre au maître son poème. Un papillon, je lui ôte les ailes, j'obtiens un piment. La réponse du maître est immédiate. Non, ce n'est pas cela. Écoute, un piment, je lui ajoute des ailes, j'obtiens un papillon. Pas mal. Voilà. Donc après, bon, il y a eu toutes sortes de choses. Il y a eu juste quand même ce beau passage où ils racontent qu'ils ont eu la visite d'un jeune ami chinois. Très beau, qui en fait tout à coup a fait une représentation donc, de chant, je crois, devant ses parents, et lui en fait il s'est complètement métamorphosé en femme, et ses parents qui étaient donc ils sont restés complètement médusés, et il a écrit ce beau passage sur les, ce qu'il appelle les miracles, et j'aimerais vous le lire si vous n'êtes pas saturé. Non, ça va, ça va tout le monde. Mais bon, ça, je vais passer. Ouais. Bon. Réfléchissant maintes fois à cette situation tendue, qui me laissa un souvenir ineffable, je me rendis compte que tout acte extraordinaire abat les murs de la raison. Il brise les échelles de valeur et renvoie le spectateur à ses propres jugements. Il agit comme un miroir, chacun le voit avec ses limites. Mais ces limites, en se manifestant, peuvent provoquer une prise de conscience inattendue. Le monde est tel que je pense qu'il est. Mes malheurs viennent de ma vision tordue. Si je veux guérir, ce n'est pas le monde que je dois essayer de changer, mais l'opinion que j'ai de lui. Les miracles sont comparables aux pierres. Ils sont partout, offrant leur beauté, et presque personne ne leur accorde de valeur. Nous vivons dans une réalité où foisonnent les prodiges. Mais ils sont vus uniquement par ceux qui ont développé leur perception. Sans cette sensibilité, tout devient banal. On donne à l'événement merveilleux le nom de hasard. On avance dans le monde sans cette clé qu'est la gratitude. Lorsque survient l'extraordinaire, nous le voyons comme un phénomène naturel, dont, tels des parasites, nous pouvons tirer l'usufruit, sans rien donner en échange. Mais le mirage exige un échange. Ce qui m'est donné, je dois le faire fructifier pour les autres. Si on n'est pas unis, on ne saisit pas le prodige. Les miracles, personne ne les fait ni ne les provoque. Il faut les découvrir. Quand celui qui se croyait aveugle enlève ses lunettes noires, il voit la lumière. Cette obscurité est la prison rationnelle. Voilà. Donc, pour Jorodowski, on pouvait vraiment provoquer notre destin. Mais c'est ce qu'on discutait de ça ce matin, Vincent. Même s'il y avait des rencontres, des synchronicités, enfin des choses qu'on provoquait, après il faut, voilà, on discutait aussi Fabrice tout à l'heure, il faut le oui en fait à ce qui est proposé. Il faut aussi le saisir, l'opportunité qui nous est donnée. Et je vous donne un exemple, par exemple, dans ce livre, c'est que un jour, je crois que c'était en France d'ailleurs, mais je ne suis pas sûre de ce que je vous dis, mais bon, il a fait faire sur mesure des immenses chaussures de clown. Et il a marché toute une journée avec dans la ville. Il s'est rien passé de la journée de particulier, donc il était assez déçu. Et seulement vers la fin, un homme vient le voir, et cet homme, c'était Tony Zanahoria. Et je crois que c'était le directeur d'un cirque, et qui lui a donné sa carte. Et en fait, cet homme-là lui a permis de s'initier à l'art du clown et du cirque. Et parce qu'en fait, ça y est, la rencontre avait eu lieu, enfin l'événement de la chaussure avait provoqué la rencontre, la rencontre avait provoqué l'opportunité, et là, c'est le libre choix, en fait, à chacun. Et j'ai remarqué que dans toute sa biographie, Jorodowski, lui, il a vraiment dit oui aux choses qui se présentaient à lui, quoi. Il est vraiment allé dans l'expérience.
C'est une belle leçon de vie, ça, hein. De changer d'un seul coup, de saisir les opportunités, les trucs comme ça.
Je passe un petit passage, bon. Sur l'identité du clown, est-ce que celui-là, bon, je passe un peu, j'ai essayé d'accélérer un petit peu. Donc, une autre action, bah oui, il a carrément imposé son théâtre de marionnettes au théâtre expérimental de l'université du Chili. C'était quoi sa phrase? C'était plutôt que d'attendre que les puissants nous donnent notre chance, il faut que nous, on donne leur chance aux puissants. Et il est allé là-bas avec ses marionnettes, avec son théâtre. Il a dit, voilà, je vais être directeur du théâtre de marionnettes, où je vais faire en sorte qu'il y ait un théâtre. C'était un lieu où il n'y avait pas de théâtre. Donc, on lui répond, il n'y en a pas. Et il dit, bah, maintenant, il y en a un. Point. Et il a été donc là-bas avec ses marionnettes. Donc, c'est, vous voyez jusqu'où il va pousser quelque part l'audace. C'est le, voilà. Bon, il y a un passage intéressant, très beau, je trouve, par rapport à ce théâtre, c'est qu'en fait, il prend conscience du caractère sacré de l'art et que pour lui, il n'existe pas vraiment de différence entre manipuler des marionnettes dans l'ombre ou être dans l'extase de la prière. Et un de ses collaborateurs, là, un de ses collègues, Eduardo, je crois qu'il s'appelait, il a été tellement possédé, entraîné par... toute cette méditation sacrée, en fait, quand il manipulait des marionnettes, un jour il est parti, il s'est fait moine. Il est devenu moine. Et il y a eu toute une réflexion autour de ça. Mais en fait, bon, Jodorowsky refusant les dogmes religieux, etc., il a essayé de devenir ce qu'on appelle un saint civil, enfin ce que lui appelle un saint civil. Du coup, c'est-à-dire, en fait, reproduire les qualités de bonté universelle d'un saint, mais débarrasser des dogmes de la religion qui s'était pour lui complètement emparée de la sainteté. Voilà, même si son expérience dit qu'il a quand même commis des erreurs et que ça a été quand même une demi-réussite parce que c'était encore une imitation de sainteté et qu'il n'y avait pas encore quelque chose d'assez habité. Alors je vais voir, je vous ai réservé, oh là là, je vais voir si c'est un
selon lui,
passage, je vous le dis. Comment
selon lui. Enfin, c'était pas assez
pour lui, oui, et qu'il a commis des erreurs qu'il nous décrit, notamment la défloration d'une lesbienne qui a fini par adorer, qui l'a harcelé après, bref. Enfin, il a des trucs comme ça, donc il a commis des erreurs et d'autres erreurs. Ouais.
Avant d'être saint.
Comment
c'est le propre d'un saint,
oui.
De commencer par d'être sur un chemin.
Voilà, bon, je vous lis rapidement. Hein, voilà. Donc, la profonde vocation d'Edouard Don, c'est celui qui s'est transformé en moine, me révéla le caractère sacré du théâtre. moi qui avais été élève athée, pouvais-je aspirer à la sainteté ? Chaque religion a ses saints. Frère Maurus ne tardait pas à devenir un saint catholique. Mais il y avait aussi des saints musulmans, les saints juifs, appelés justes, les saints bouddhistes ou éveillés. Les religions s'étaient appropriées la sainteté. Être saint signifiait respecter les dogmes. Que nous restait-il à nous qui n'étions les porte-drapeaux d'aucune théologie, à qui la nature animale faisait désirer l'union avec une femme ? Je pensais que l'on pouvait être un saint civil. La sainteté ne devait pas être nécessairement liée à la chasteté ou au renoncement du plaisir sexuel, base de la famille. Un saint civil pouvait ne jamais entrer dans un temple, ni même avoir besoin de vénérer un dieu, ayant un nom, une image définie. Cet homme, avec une conscience non seulement sociale, non seulement planétaire, mais également cosmique, avait dépassé les intérêts exclusivement personnels, était capable d'agir au profit du monde. Se sachant uni, les douleurs des autres étaient ses douleurs, de même que leur joie était sa joie. Il savait aussi bien compatir et aider celui qui était dans le besoin qu'applaudir le victorieux, à condition que celui-ci ne fût pas un exploiteur. Parvenir à la bonté du saint civil, quelqu'un d'étranger à toute secte, doucement impersonnel, capable d'accompagner une mourante dont il ne connaissait pas le nom avec la même dévotion qu'il le ferait si elle avait été sa fille, sa sœur ou sa mère, me parut impossible. Voilà. Voilà. Bon. Bref. Voilà. Donc, le saint civil. Oui, je vais vous passer ce passage aussi. Mais bon, c'est très intéressant. C'est un moment où il va découvrir sa vanité aussi, hein, quand il va entrer dans le théâtre où l'acteur principal l'engage, et puis en fait il devient tellement bon, il gagne en notoriété, en assurance, et là il est mis à la porte du coup du jour au lendemain par cet homme qu'il appelait son maître. Et voilà, donc se penser indispensable, il découvrit la vanité, puis c'est vraiment l'histoire du bœuf et du moustique qui est écrit. C'est un moustique se pose sur un bœuf, le bœuf ne bouge pas, le moustique s'en va, le bœuf ne bouge pas. Voilà. Et il dit quand même cependant, oui, parce que quand même il travaille aussi beaucoup sur le mimu. Enfin, je peux pas vous dire, il a eu tellement de.
Oui. Quel âge à ce moment-là, à peu près ? Il est déjà cinéaste.
Je pense que c'est avant son exil en France, et son exil a eu lieu en 1953. Je pense. Mais ce qui, ouais.
Il est né en quelle année, ouais.
Il est né en 29. Il a aujourd'hui 96 ou 97. Et donc c'est essayé au mimuet, évidemment. Il a entrepris un travail très intense sur le corps. Et il dit qu'il a commencé à enseigner à ce moment-là, et a enseigné des choses qu'il ne savait pas. Et bon, il y a un beau passage où il dit que pour lui, un thérapeute qui n'est pas malade ne peut pas aider son patient. Voilà, mais bon, bref. Bon, après, bon, il faudrait que je vous le lise parce que c'est plus complexe que ça, mais bon.
Ça va.
Ça va, tout le monde, je poursuis, j'ai encore les deux. Trois pages. Ça va ? Ouais ? On accélère ?
Non, c'est
bon. Ouais, mais bon, quand même. Donc. Donc après, il connaît donc une phase abominable d'angoisse existentielle le jour où il prend conscience réellement et profondément de sa finitude à cause d'un chien. Donc en 1953, après cette immense crise qu'il traverse, c'est vraiment une crise très profonde, il va quitter le Chili tout d'un coup, et il va s'exiler en France, sans un sou en poche, jetant son carnet d'adresse à la mer. Donc c'est vraiment une évasion spirituelle, et une mort spirituelle aussi, et pas du tout un exil politique, parce que le Chili, pour le coup, l'avait très bien reconnu et accepté en tant qu'artiste.
En quelle année il est passé ?
En 1953. Ah il oui, a pris le bateau
avant Pinochet.
Ouais, c'était avant la dictature.
Pinochet,
ouais,
c'est
ouais.
74,
donc il a 24 ans.
Il a 24 ans, et voilà, ouais. C'est ça. Il a 24 ans quand il s'exile, donc il est très 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 très, très jeune encore.
Et voilà. Pourquoi s'il a eu cette reconnaissance et tout, il a...
Parce qu'il était dans une phase de crise existentielle très très profonde. Et il sentait que. Et en plus, une phase qui devenait un peu stérile dans sa création. Et comme s'il sentait qu'il devait être ailleurs. Et la France l'appelait parce que c'était la terre promise du surréalisme à l'époque, et de la liberté surréaliste, d'ailleurs qu'ils l'ont un peu déçu. Donc c'était vraiment un redémarrage à zéro dans ce qu'il y a de plus précaire. Quoi. Il est arrivé là-bas, il avait plus, il a tout vendu, hein, ses toiles, ses tout.
C'est une question comme ça, Breton, il avait quel âge?
Je sais pas, mais il était...
Les surréalistes, ils sont de ceux nés en 1921.
Donc, est-ce que c'est pas... Parce qu'il dit... Mais je crois que c'est pas... Ça doit être une dizaine d'années avant sa mort, peut-être, à Breton, je dirais. Et d'ailleurs, anecdote avec Breton. Donc, il arrive en France, il a plus rien. Il a, voilà, il appelle Breton parce qu'il avait son numéro, parce que son mouvement, la Mandagora, a été très lié au surréalisme français. Donc, il appelle Breton, première chose qu'il fait. En lui disant, je suis voilà venu quelque part pour, je sais plus c'est sauver le mot, mais le surréalisme, voilà, et il faut qu'on se voit immédiatement. Et puis il était tard le soir, donc Breton lui dit, bah non, on va se voir demain, c'est pas une heure de visite. Il dit non, non, maintenant, là, ici et maintenant. Donc Breton lui dit non, on se verra demain, et lui dit, un vrai surréaliste n'aurait jamais refusé de me voir maintenant. Et il raccroche, paf. Et il n'a plus vu de Breton avant des années et des années. Ah oui, oui, oui. Ah, mais c'était comme ça. Le surréalisme, c'est ici, maintenant.
C'est structuré. Voilà. C'est du surréalisme structuré.
Justement, là, c'est... Voilà. Bon.
C'est une sorte de fierté.
Mais voilà, pardon.
Un film éternel, bon, voilà, les gens qui ont raccroché au nez de
Breton. Et ouais, non, mais c'est complètement. Bon, de toute façon, très honnêtement, il a eu que des rencontres ratées avec Breton. Ça, je peux m'empêcher de faire cette parenthèse, mais sa deuxième rencontre, donc il allait voir donc, le maître dans sa maison. Et donc il a attendu 10 minutes, c'est sa femme qui les a reçus et tout. Puis au bout de 10 minutes, donc sa femme lui a dit qu'il allait arriver. Puis il est monté à l'étage pour aller aux toilettes. Et là, il ouvre la porte, il voit Breton en train de faire ses besoins. Donc Breton hurle à faire aboyer les chiens, et là il s'en va en courant jusqu'à la gare.
Ah ouais.
Et il part. Ah bah,
deuxième entier,
ah bah là il a vu le maître dans un endroit où il ne fallait pas qu'il le voit, et ça a été que des rencontres. Et après il s'est exilé au Mexique parce que je crois que ça a été un choc pour tout le monde. Bon voilà, donc en France, donc il invente les éphémères toujours, hein. C'est du mouvement panique. Donc les éphémères, c'est un peu comme les éphémères là-bas, mais on pousse encore plus loin, parce que c'est des œuvres d'art, mais qui n'ont aucun futur, aucun désir de postérité, rien du tout, qui sont dans l'espace public. Et l'idée, c'est toujours la même, c'est des actions rituelles qui vont provoquer une catharsis, un choc émotionnel chez le spectateur. Par exemple, dans ces éphémères, il va démolir un piano à queue. Alors il n'expliquera pas comme ça tout de suite, mais ce piano à queue va représenter symboliquement la préférence de son père pour sa sœur Raquel, qui jouait du piano, en fait. Voilà, et il a interviewé aussi une vache dans une université pendant 2 heures. Voilà. Et oui. Et il constate qu'avec ses actes, on va dire, de délire théâtral, l'alchimie transforme l'angoisse en joie. Mais, passage intéressant, il prend aussi conscience, au bout d'un moment, qu'on ne guérit pas un collectif en agressant la société. Et c'est là où je vais vous lire, alors, juste... Voilà. Ces éphémères me démontrèrent l'énorme impact qu'ils produisaient, bien plus grand que le théâtre habituel. Au cours de ces années de formation, je croyais que, pour obtenir une mutation de la mentalité collective, il fallait agresser la société dans ses concepts fossiles. Il ne m'était pas venu à l'idée qu'on n'agresse pas un malade, mais qu'on le soigne. Je ne concevais pas encore l'acte thérapeutique social. Voilà, il a vraiment pris conscience de ça. Ensuite, on en est où de sa vie là? Oui, il commence aussi, du coup, à filmer voilà, toutes ses perceptions de performance et tout, et à proposer des mises en scène cathartiques pour des personnes venant le consulter. Donc il commence, sous forme de théâtre conseil, à recevoir des gens, des consultants, quoi.
Il est au Mexique là? Il est en France.
Et là, il me semble qu'il est en France parce qu'il s'est... Enfin, s'il respecte à peu près la chronologie dans son livre, il est en France en tout cas. Je crois. Oui, c'est ça.
Il est en France.
Et il en vient voilà, à douter de la finalité de l'art. Et en fait, il a une sorte de crise voilà, dans laquelle il se demande mais à quoi doit servir l'art. Et voilà ce qu'il répond. Hop. Donc, je doutais de l'art. À quoi sert-il? Si c'est pour divertir des personnes qui ont peur de se réveiller, il ne m'intéresse pas. Si c'est un moyen de triompher sur le plan économique, il ne m'intéresse pas. Si c'est une activité adoptée pour mon ego, pour s'encenser, cela ne m'intéresse pas. Si je dois être le bouffon de ceux qui ont le pouvoir, qui empoisonnent la planète et affament des millions de gens, il ne m'intéresse pas. Quelle est donc la finalité de l'art ? Après une crise si profonde qu'elle me conduisit à penser au suicide, j'arrivais à la conclusion que la finalité de l'art était de guérir. Si l'art ne guérit pas, ce n'est pas de l'art, me dis-je, et je me décidai d'unir dans mes activités l'art et la thérapie. Que le monde comprenne bien, la thérapie que je connaissais était réalisée par des esprits scientifiques qui affrontaient l'inconscient chaotique et tentaient de l'ordonner. Ils extrayaient des rêves, un message rationnel. Je n'arrivais pas à la thérapie venant de la science, mais venant de l'art. Mon but, au contraire, était d'apprendre à la raison à parler le langage des rêves. L'art qui devenait thérapie ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était la thérapie convertie en art. Voilà. Et c'est là où c'est intéressant, parce que pour lui, il n'existe pas de frontière entre le rêve et la réalité. Donc là, je vais vous épargner, je vais très rapidement dire, mais il rédige des très longs chapitres, enfin un très long chapitre notamment, sur les rêves lucides qu'il a cherché à faire pendant des années et des années, 10, 20 ans, je sais pas, il a essayé vraiment de faire ses rêves lucides, je sais pas s'il les notait d'ailleurs, mais il avait beaucoup de cauchemars en fait. Lui, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup de cauchemars, donc il a vraiment essayé de vaincre les menaces pour les transformer en alliés. Et le rêve devient vraiment pour lui un champ d'expérimentation du soin, puisqu'il considère lui-même que nous vivons dans une sorte de rêve éveillé et que notre quotidien est tressé avec la même matière que nos songes. Et pour lui, et c'est toute la base, voilà, c'est de tout son art thérapeutique, c'est que l'inconscient ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Donc si on fait un geste symbolique fort dans la réalité, ben, l'inconscient le vit comme un événement définitif.
Dans l'imaginaire ?
Comment ?
Tu peux redire ?
Si on fait un geste symbolique dans la réalité, pour notre inconscient, c'est un geste réel, donc ça se transforme en événement définitif. Donc tout son travail, en fait, à Jodorowsky, c'est d'utiliser le langage du rêve pour guérir la vie éveillée en parlant directement à l'être de rêve que nous sommes, en utilisant l'imagination créatrice et le langage symbolique. Donc en fait, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il quand il reçoit des patients, il les traite comme s'ils venaient de vivre un rêve. Et la première chose qu'il leur demande, par exemple, si quelqu'un lui dit mon entreprise a fait faillite, il lui demande pourquoi avez-vous rêvé que votre entreprise faisait faillite. Et tous ces patients, ils commençaient comme ça. Pourquoi avez-vous rêvé que vous aviez un accident? Pourquoi avez-vous rêvé que votre femme vous a quitté? Et ils partaient comme ça dans ces thérapies. Voilà, bah c'est comme ça que pour lui on va imprimer changer le décor en fait de la réalité, imprimer une nouvelle solution dans notre inconscient. Donc voilà, bon, je vous dis rapidement, hein, il est quelle heure là, je ne me rends pas compte.
9h.
Donc c'est le temps de terminer bientôt là.
C'est à toi de
Ah là là, ouais, c'est un peu plus long que ce que je pensais, désolée. Alors, je vais essayer d'aller vite. Donc il travaille énormément par le corps, il fait ce qu'il appelle des massages initiatiques.
C'est comme les marionnettes.
Donc notamment, il
est... Parlez-moi fort, j'adore.
Ce qu'il fait, c'est qu'il appose ses mains notamment sur des objets sacrés au Mexique. Et il va faire par exemple un long massage du dos de la Vierge dans une église, parce que la statue de la Vierge supporte toutes les requêtes des gens. Donc il va la masser le dos pendant très longtemps. Et il passe aussi, alors passage que j'ai trouvé vraiment extraordinaire, il passe deux mois chez un ami près d'un endroit où il y a des roches. Voilà, et en fait il va polir des roches pendant un mois ou deux. Voilà, alors au départ il dit que... il n'arrive même pas lui-même à comprendre pourquoi il fait ça. La pierre n'a pas besoin de son existence, c'est tout rugueux, ça sert à rien, c'est froid. Et puis petit à petit, il commence à établir un contact de plus en plus sensible. Voilà, et avec. En fait, dans une recherche d'unité cosmique avec les éléments minéraux. Et pour juste anecdote, en fait, il y a un de ses élèves qui les pieds et qui lui a demandé. Parce qu'il, il massait nu, évidemment, les pierres, hein, donc il était nu à masser ses rochers. Et il lui a demandé un massage initiatique, cet élève-là, il a accepté, donc il lui a fait un massage après un mois ou deux d'avoir pétri les pierres. Et en fait, il dit que le lendemain, c'était son élève, il a rassemblé ses économies, il est parti faire le tour du monde.
Qui, voilà. Lui, son élève ?
Non, l'élève, après avoir reçu ce massage. Voilà, donc là je vous passe tous ces détails. Alors voilà, juste ça, et après on va terminer. Alors, dans des pages mais complètement hallucinantes, mais vraiment ces passages, c'est extraordinaire. Il raconte son initiation de plusieurs années avec Paquita. Je pense que ça se prononce Paquita ou Pachita, mais moi je pense Paquita, qui est une guérisseuse mexicaine. Comment on explique ça? Qui opère les malades à l'aide souvent d'un couteau, d'un vieux couteau rouillé. Ouais. Qui prétend changer leurs organes, referme le ventre sans laisser de cicatrices, puis les enrubanne dans un drap dans lequel ils doivent rester une demi-heure sans bouger. Donc il y a du sang qui coule, il y a comme si elle extrayait quelque chose de leur corps qui sent très mauvais. Bon, il y a toutes les sensations, tout ça. Le truc, c'est qu'elle obtient des résultats spectaculaires. Et ce qu'elle accomplit, évidemment, défie toute logique rationnelle. Alors, Jourovski se demande évidemment, c'est ce qu'il pense, c'est que c'est du charlatanisme, que c'est une illusionniste en fait qui se joue de la naïveté des malades, et donc il va se demander au départ quel est le trucage. Mais finalement, au bout d'un moment, fasciné je pense par la personnalité de cette femme et par son talent, c'est-à-dire par les effets réels qu'elle produit, en fait il en vient à la conclusion suivante que bah, peu importe que ce soit vrai ou pas sur le plan scientifique. Ça n'a plus d'importance pour lui. Et donc, ce qui compte pour lui, c'est l'impact foudroyant de cette mise en scène sur le cerveau du patient. Sa croyance de Paquita, hein, sur la croyance absolue qu'elle a des dons sur ses dons et sa théâtralité, etc., de l'acte, crée un choc tel que le corps du patient semble déclencher sa propre guérison. Et donc, il se laisse lui-même gagner par une sorte de foi, de dévotion, on va dire, et il va devenir son assistant durant plusieurs années. Et lui-même, en fait, a subi une opération de cette femme au foie. Et ce qu'il décrit, c'est assez dingue, parce qu'il décrit la pire douleur qu'il a jamais ressentie. Voilà. Et après, bon, une pseudo-guérison. Mais tout en pensant, en imaginant que, évidemment, c'était truqué. Donc, elle, cette femme, Paquita, cette sorcière chamane, elle a été le catalyseur absolu de sa théorie sur la psychomagie. Donc pour lui, elle est la preuve vivante pour lui que l'esprit peut agir sur la matière par le biais du rituel. Donc, elle a appris, donc à Jodorowsky, que pour guérir l'âme, parfois le corps, il faut passer par l'irrationnel. Et donc avec elle, il comprend que les conditions qu'elle réunissait, le sacré est nécessaire, que le patient doit être plongé comme dans un état de transe ou de foi totale en tout cas. Le corps parle à l'inconscient, ses gestes sont très concrets hein, et donnés au corps de cette Paquita. Le chaman est un metteur en scène. Paquita utilisait des trucages, sans doute peut-être inconscients, pour tromper l'esprit du malade afin de le libérer de sa certitude d'être malade. Et donc il dit, si Paquita peut guérir avec un faux couteau et une foi immense, je peux guérir les névroses avec des actes poétiques. Et c'est là qu'est née la psychomagie pour lui, c'est-à-dire utiliser la puissance d'un rituel, on va dire entre le chamanisme et le surréalisme, dans un but de thérapie thérapeutique moderne. Donc pour lui, et j'en viens à ma dernière, j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. Donc l'acte psychomagique, c'est ni de la psychologie classique, ni de la magie occulte au sens littéral, ni une forme, mais c'est une forme de thérapie par l'action. C'est-à-dire que philosophiquement, on peut définir comme un existentialisme poétique. C'est une métaphore mise en scène destinée à parler directement à l'inconscient. Et à travers cet acte, en fait, on va donner à l'inconscient une image plus forte que le trauma. Donc pour lui, l'inconscient ne comprend pas le langage rationnel, donc les mots, mais en revanche, il est très sensible aux symboles, aux objets, aux gestes. Et pour lui, on peut détruire la charge émotionnelle de ce traumatisme avec un acte symbolique qui a la même valeur qu'un acte réel. Donc cette pratique, c'est donc pour lui, contrairement à la sorcellerie qui croit en une force extérieure, la psychomagie est une magie sans superstition. C'est-à-dire que le pouvoir ne réside pas dans un objet, mais dans la volonté de celui qui effectue l'acte. C'est un placebo sacré quelque part, en fait de l'imaginaire un médicament. Donc voici juste pour finir les quelques piliers de l'acte. Donc il veut rompre avec la passivité, c'est-à-dire que l'acte doit être concret, parfois difficile, souvent bizarre ou poétique, et il faut engager le corps dans cet acte et dans le monde. Voilà, donc l'aspect artistique ou théâtral, c'est-à-dire que c'est une philosophie de la libération. Si par exemple nous sommes prisonniers d'une histoire mal écrite, une lignée douloureuse, un traumatisme, bon, il a beaucoup travaillé sur la psychogénéalogie aussi, nous avons le pouvoir de réécrire cette histoire par un acte symbolique. L'imaginaire n'est pas une fuite, c'est notre souveraineté, c'est un outil de notre souveraineté. Et donc c'est une philosophie de la praxis, c'est-à-dire pour que la conscience change, il faut que le corps vive une nouvelle expérience. Donc c'est le passage de la compréhension mentale à la connaissance vécue. Et l'acte psychomagique ressemble souvent à une performance artistique en vérité. Et il doit posséder pour lui trois caractéristiques principales. Être prescrit par un tiers, potentiellement le thérapeute, pour avoir un caractère d'ordre, je sais pas, sacré en fait. Enfin, voilà, être réalisé avec une précision rituelle, ça c'est très important pour lui en tout cas. C'est-à-dire chaque détail compte, l'heure, le lieu, les... enfin, tous les détails comptent en fait. Et le consultant doit obéir aux instructions à la lettre. Alors il parle de cette notion d'obéissance de manière très jolie. Moi j'avais jamais vu l'obéissance comme ça, mais l'obéissance à un moment donné, une forme de confiance dans ce qui est proposé. Voilà. Et cet acte doit être transgressif ou absurde, c'est-à-dire sortir de la logique quotidienne pour forcer l'esprit à court-circuiter toutes ses représentations. Voilà, donc la psychomagie, évidemment, elle n'est pas du tout le dualisme bien, mal, ombre, lumière, etc. Pour elle, elle postule que chaque douleur, chaque ombre de notre passé est une matière première précieuse. Donc philosophiquement, c'est l'amour du destin, c'est-à-dire on ne rejette rien de ce qui nous arrive, on va tout transformer. Et tout ce qui est sombre va devenir un engrais pour la création. Et donc pour terminer, ça y est, on arrive à la fin, ouf, je vais vous libérer. Donc pour lui, on n'en a pas trop parlé, mais c'est très très important dans tout ce qu'il fait, c'est la solidarité transgénérationnelle, c'est vraiment l'idée qu'on va porter en nous des mémoires de notre lignée, etc. Et on n'est pas des individus isolés, mais vraiment les feuilles d'un arbre, quoi. Donc ça veut dire que notre liberté individuelle, telle qu'on la conçoit, est liée à la guérison aussi de ceux qui nous ont précédés ou vice-versa. Et en gros, quand nous soignons nous-mêmes par un acte poétique, on va quelque part symboliquement libérer donc nos ancêtres et que nous protégerons aussi ceux qui nous suivent parce qu'on va venir briser un schéma. J'ai juste, pour terminer, ça c'est la toute fin, vous citer quelques exemples d'actes parce que tout la fin de son livre, il ne fait que citer ces actes psychomagiques. Alors je vais essayer de vous épargner les... Bon, en gros, celui-là, il est trop long, donc je vais pas vous lire, mais une femme qui vient le voir... très, très raisonnable et tout, parce que son mari est parti avec une femme plus jeune et elle ne peut pas le supporter. Et donc, il lui dit d'acheter trois oiseaux, deux femelles, dont une jeune, une vieille et un mâle. Et donc, au bout d'un moment, elle... Alors, je ne vais pas vous lire tout le truc et tout, mais en fait, au bout d'un moment, en gros, la jeune femelle, voilà, dans cette cage... s'est mise à grossir, perdre ses plumes, rester immobile dans un coin. L'autre, la plus vieille, s'est mise à embellir, à maigrir, à chanter joyeusement. J'ai appris, donc c'est la fin qui dit ça, qu'une jeune femelle périt si elle n'est pas fécondée par le mâle. Le dixième jour, c'est-à-dire aujourd'hui, quand je me suis assise à notre table de travail, j'ai soudain levé les yeux vers la cage et à cet instant précis, la femelle malade est tombée morte. Je suis épouvantée, elle représentait ma rivale. J'ai l'impression de l'avoir tuée. Pardon, que dois-je faire? Bref, voilà. Et donc, voilà. Bon, ça, bon, malheureusement, ça impliquait un décès d'oiseau. Mais bref, après, il lui dit, bon, d'acheter trois oiseaux, voilà. Donc, à une femme.
Ouais. Voilà. Ouais. Mais si c'est un autre oiseau qui meurt, il ne se passe pas.
Ben là, en l'occurrence, ça a été...
Non, mais après,
Tu interprètes comme...
Je crois pas à la magie, voilà. C'est ça.
Il faut croire.
Ouais, ouais. Tout à fait. Alors, juste un ou deux autres, et puis après, je vous laisse tranquille. Mmh. Donc, un garçon se plaint de vivre dans les nuages. Il m'explique qu'il n'arrive pas à mettre les pieds dans la réalité ni à avancer dans sa quête d'autonomie financière. Je prends ses paroles au pied de la lettre et lui propose de trouver deux pièces d'or et de les coller sous les semelles de ses chaussures de manière à marcher toute la journée sur l'or. À partir de ce moment, il descend des nuages, met les pieds dans la réalité et avance. Alors, à une femme qui avait grandi martyrisée verbalement par ses parents et qui ne pouvait s'exprimer sans paroles agressives, je recommandais d'acheter des morceaux de rayons de miel. Je lui demandais d'adoucir sa bouche en mâchant cela jusqu'à obtenir une petite boule de cire, d'accumuler ses restes dans un coffre à bijoux et, au bout d'un certain temps, de donner à cette cire la forme d'un cœur, de passer sur sa langue une teinture végétale rouge, de lécher le cœur jusqu'à la teindre en rouge et, enfin, de le clouer dans les toilettes face à la cuvette où elle faisait ses besoins. Ainsi, son inconscient recevrait-il le message que parler était un acte d'amour, non une excrétion. Il y en a d'autres, hein. Il y en a plein d'autres. Hein. De toute façon, là, c'est... Oui, oui. Allez, la dernière, parce que ça touche un peu au corps. Alors lui, ce qu'il dit juste, parenthèse, c'est qu'il a très peu voulu aider des gens avec des mots physiques, mais qu'il a fait quelques exceptions quand même, malgré tout. Donc, une femme qui boite, appuie sur une canne, me demande de l'aider à bien marcher. Je lui explique que je ne fais pas de miracle. Je ne suis pas Paquita pour lui ajouter un os et lui retirer une jambe. Je peux cependant lui faire mieux accepter sa claudication. Je lui demande où elle a trouvé cette canne si laide, sans vernis et d'un bois ordinaire. Elle appartenait à mon grand-père paternel, me répond-elle. Et que s'est-il passé avec ce grand-père ? Il n'a jamais parlé à personne, il a vécu comme un ermite, enfermé dans son appartement. Je lui conseille de brûler cette canne, de prendre une poignée de ses cendres et d'en frotter sa jambe courte. Puis d'acheter la plus belle qu'elle puisse trouver en bois d'ébène avec une poignée d'argent, ce qu'elle fait. Elle retrouve le goût de se promener à pied. En préconisant cet acte, j'appris que les lieux du corps qui sont affectés, une cicatrice, une bosse, etc., doivent être exaltés. Voilà, il y en a plein, mais je vais arrêter là parce que je vous laisserai les lire, place au débat. Voilà. Oh.